On est avec ce que l'on veut bien nous donner, et on ne peut rien faire pour le changer. Mais alors, serait-ce vrai que nous ne pouvons décider de notre destinée ? Serait-ce vrai que certains, et certaines, sont nés sous une bonne étoile, et d'autres non ? Je pense que nous faisons avec les circonstances qui nous sont offertes, et puis que nous créons nos propres circonstances, car il est trop facile de se cacher derrière la fatalité de nos expériences. On ne devient pas qui l'on est en se cachant derrière ses ombres. On apprend à les sublimer, à sublimer ses blessures, à guérir profondément. Le droit d'être, soit tu le prends, soit tu subis ta vie. On ne peut blâmer l'autre ou les circonstances pour tout ce qui nous arrive. Nous devons prendre la responsabilité de nos vies, de nos expériences, de nos apprentissages. Il me semble qu'encore aujourd'hui, il nous est difficile d'assumer tout ce que l'on est et de l'exprimer. En vivant mes expériences, en tant que femme, j'ai souvent eu l'impression de ne pas être assez, ou alors d'être de trop, de ne pas faire assez, ou alors de faire trop. Finalement, pour me protéger, je me suis ancrée dans des comportements à forte consonance patriarcale dans lesquels je me suis perdue un jour. J'ai longtemps observé, cherché, ce qui n'allait pas chez moi, pour enfin me rendre compte qu'il n'y avait rien qui n'allait pas chez moi, que ce n'était pas forcément les autres non plus qui étaient mon fléau, mais bien ma perception du monde et de ma place dans celui-ci, qui se devait d'être radicalement modifiée. Je suis Juliane Landrieux et j'ai créé le podcast Le droit d'être pour donner un espace là où la compassion pour soi-même aide à révolutionner son quotidien. Un podcast pour révolutionner l'être soi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment parler de sa vérité ? Comment ne pas subir les on-dit, les qu'en dira-t-on ? Les regards et les jugements que l'on porte tout d'abord sur soi, et puis ceux des autres. À travers chaque épisode de ce podcast, je souhaite que tu te connectes à l'histoire que tu entendras. Car chaque personne est unique et parle de son expression personnelle et de son évolution dans ce monde. Car chaque histoire vaut la peine d'être contée. Et qui de mieux que toi-même pour parler de ton essentiel ? Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Le droit d'être. Aujourd'hui, nous allons parler du masculin sacré. Et j'ai invité deux hommes exceptionnels pour ce faire, Thomas Diblard et Gaël Salesi. Merci à tous les deux d'être là pour ce premier épisode. Gaël, c'est le créateur du mouvement Harmoniser sa vie. Et Thomas, comme il aime se définir, un être humain au masculin, en quête d'une meilleure version de lui-même, sur un chemin parsemé de hauts, de bas et surtout de développement personnel. Gaël, pourquoi as-tu créé le mouvement Harmonisateur de vie ?
Bien, tout simplement dans le but de ramener de l'harmonie en fait dans ce monde. C'était une valeur qui moi me porte et justement je me dis que on a tous besoin de plus d'harmonie dans sa vie. Et donc le mouvement, il a pour but de justement permettre à chacun d'incarner cette valeur-là dans sa vie.
Ok, qu'est-ce que tu entends par harmoniser, du coup, et par harmonie ?
L'harmonie, en fait, c'est déjà l'harmonie entre soi, déjà à l'intérieur de soi. Donc c'est déjà se connaître soi et être justement en équilibre dans ses différents corps. Donc là-dessus, il y a les quatre corps, comme on dit, qui sont physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles, d'aligner ces quatre corps et d'être en phase avec eux. Et l'harmonie aussi avec le monde extérieur. Donc il y a soi, et on vit sur quelque chose qui est plus grand que soi, on vit en interaction avec d'autres personnes, et c'est de trouver un équilibre entre tous ces acteurs, qui pour moi est la notion d'harmoniser.
D'accord. Et toi Thomas, quand on te parle d'équilibre et que Gaël aimait cette notion-là, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Équilibre, j'entends par là qu'il faut en fait prendre chaque expérience, surtout liée à l'environnement. Enfin, je parle d'un point de vue subjectif surtout. Prendre ce qu'il y a dans l'environnement et équilibrer ça avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc c'est un travail à faire en fait sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais, on va dire. Et trouver en fait le juste équilibre, ce qui nous permet d'être toujours en phase et être aligné avec soi en fait. Peu importe ce qu'il arrive, quoi.
D'accord. Alors aujourd'hui on est là pour parler du concept ou de l'énergie masculine sacrée. Est-ce que vous avez une opinion personnelle sur ce qu'est le masculin sacré aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui l'évoque pour vous en tant qu'homme ? Gaël, si tu veux commencer.
Bien, disons que la notion de masculin sacré, on va dire qu'elle est l'essence même de ce qu'on appelle l'énergie masculine. Donc c'est pas simplement être un homme, hein, parce que moi je pars du principe qu'un être humain a tout simplement ces deux énergies en lui, hein, une énergie masculine, une énergie féminine. Et justement, c'est l'incarnation, c'est cette énergie-là justement qui est le masculin sacré. Donc il y a un côté vraiment dans le mot sacré, pour moi c'est super important de se dire que justement c'est quelque chose qui vient du divin, si on peut reprendre des termes de Dieu carrément, et plus spirituel. Donc certaines personnes, pour moi ça va être le côté divin qui me parle, hein, en fait c'est dans mes concepts. Et le fait en fait d'être un homme sacré, on pourrait dire en fait. Donc ça serait rapidement la définition que je donnerais.
Et toi Thomas?
Au final, j'aurais dit plus ou moins la même chose que Gaël avec mes mots, je pense. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Et en fait, le fait de l'avoir écouté, je rajouterais aussi que le masculin sacré, c'est être connecté à son intuition masculine directement. Enfin, la connexion entre l'intuition masculine et le cœur de l'homme, en fait. On parle souvent de l'instinct féminin. Je pense que l'instinct masculin aussi est présent. En fait, une fois surtout qu'il est connecté au cœur, donc à la source de vie, c'est ce qui fait en fait le masculin sacré. Le masculin sacré, le masculin divin.
Alors, est-ce que vous connaissez les concepts de men's work and women's work en anglais? Donc le travail sur l'homme, donc l'énergie masculine, et le travail sur l'énergie féminine. Est-ce que ça vous parle, ces concepts-là?
Donc du coup, pour moi, disons que j'en ai entendu parler, je ne suis pas non plus, on va dire, très connecté à cela, on va dire, mais j'en ai entendu parler.
Moi qui suis en plein dedans avec les femmes, c'est vrai que quand on parle de women's work, on va aller chercher des techniques, par exemple, de mouvement par rapport à la danse, par exemple. On va aller parler d'écriture libératrice, où on va aller exprimer notre intuition en tenant... ce qu'on appelle les techniques de journaling, qui permettent en fait de tenir un journal quotidien sur tout et n'importe quoi. Ça peut être sur des concepts qu'on a envie de transmettre, ça peut être sur des choses qu'on ressent, donc qui permettent vraiment de nourrir l'émotionnel. Il y a aussi tout ce qui est des techniques de respiration, donc qu'on appelle breathwork. Et c'est vrai que quand on travaille peut-être chez l'homme et la femme, on va pas aller chercher vers les mêmes régions du corps. Par exemple, si je travaille avec les femmes, je vais beaucoup travailler la connexion au cœur et à l'utérus, et à la douceur et à la puissance féminine, qui est souvent meurtrie, et j'ai encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui me disent que pour elles, être une femme, ce n'est pas être forte, et qui associent plutôt la force à un concept masculin. Et quand on parle de men's work, on va aller puiser justement dans cette force nourricière et protectrice qu'est l'homme et qui a été, elle, meurtrie également par la société patriarcale, on en parlait tout à l'heure, hors antenne. Et on va essayer d'aller chercher, comme tu disais Thomas, dans l'ouverture du cœur et dans l'expression des émotions, et peut-être par quelque chose plus dans l'action. Très différemment en fait de comment on va travailler chez la femme. Donc c'est ça un petit peu les concepts de men's work et de women's work, et c'est vrai qu'on travaille pas l'émotionnel de la même façon que on travaille chez l'homme et la femme. Et moi j'aurais une question, c'est comment est-ce que on pourrait expliquer cette différence aujourd'hui entre l'énergie masculine sacrée et l'énergie féminine sacrée, même si, comme a dit Gaël, c'est quelque chose qui se retrouve dans chaque être humain, mais comment est-ce qu'on nourrit l'une et comment est-ce qu'on nourrit l'autre?
Alors, comment est-ce qu'on nourrit l'une, l'énergie masculine et l'énergie féminine? Déjà, pour bien mettre les choses au clair, l'homme a plusieurs archétypes, et ces archétypes, on a des archétypes masculins et des archétypes féminins. La femme, tu nous en diras un peu plus. Mais c'est vrai que l'homme, du coup, pour la part de la masculinité sacrée, travailler sur ces deux énergies, en fait, c'est lié aux archétypes, en fait.
Et tu peux nous en dire un peu plus sur les archétypes du masculin, par exemple?
Moi, sur ce que j'ai lu, on a quatre archétypes principaux, qui est le père, aussi le guerrier, l'amant et le magicien. Après, on a bien sûr d'autres termes, mais qui rejoignent plus ou moins ce que je viens de dire. Le père, c'est celui qui va généralement organiser sa vie, son foyer, sa famille, les missions qu'il a à accomplir dans une journée, ou s'il est entrepreneur, les missions qu'il a...
Donc peut-être énergie yang qui, finalement, moi, me font penser à l'énergie de la jeune fille. Chez l'archétype féminin.
Oui, carrément.
Organisationnel.
Voilà, c'est ça. Ensuite, on a le guerrier. Donc le guerrier, c'est celui qui va user de sa force. Et on revient sur la force protectrice. Donc il va protéger les siens. Il va être aussi très actif et dynamique. Du sport, ça peut être tout n'importe quoi en fait. Il est dans l'action, il est dynamique. Après, on a l'amant, donc c'est celui qui va jouer la carte amour, la carte séduction, en fait, qui va se connecter directement à cette énergie de l'amour. Et ensuite, on a le magicien. Magicien, on rejoint un petit peu la sorcière chez la femme, sauf que nous, on n'a pas nos menstruations. Et le magicien, parce qu'on se connecte à l'énergie invisible, ce qui est lié... ça peut être lié au rituel, la méditation, en fait tout ce qui est lié à l'invisible, généralement.
Et est-ce que c'est difficile? Et toi, Gaël, quand t'entends tout ça, là, ça te parle? Les différents archétypes, là?
Disons que depuis que j'en ai parlé avec Thomas, c'est lui qui m'a un peu initié à cela, justement, où j'avais pas justement cette division d'archétypes et tout. J'avais surtout une vision, en fait, pour moi, qui était, on va dire, assez basique, de ce que j'appelais le féminin et le masculin. Pour moi, en fait, c'est tout ce qui est la notion de dualité, tout simplement, en fait. Donc c'est-à-dire que moi j'associe beaucoup en fait en me disant que ok, toute énergie dans le monde, on a deux formes d'énergie. On a une énergie qui va être active, une énergie un peu plus passive, on va avoir le jour, la nuit par exemple, on va avoir le féminin, le masculin, le plus, le moins, ce genre de choses. Et donc du coup pour moi c'était vraiment sur cette notion de se dire en gros que le féminin est souvent, on va dire, expansif, c'est-à-dire que si on regarderait sur des vecteurs en quelque sorte, le féminin est horizontal, le masculin est vertical. C'est-à-dire qu'en gros, le masculin va canaliser les choses, l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie féminine se répand partout. Et en gros, le but de l'énergie masculine va être de prendre cette même énergie féminine, de la canaliser sur un point précis, en fait. Donc pour nourrir quelque chose de plus précis, donc en gros de matérialiser.
D'accord, mais ça, donc, ce serait genre dans l'idéal d'une énergie masculine qui, du coup, touche à sa dimension sacrée et qui va... aider l'énergie féminine à se canaliser.
Exactement.
Et non ça, pas moi, à la critiquer ou la rabaisser ou l'utiliser ou ce genre de choses.
Pas du tout. Exactement. Mais là, quand on parle justement du côté sacré, c'est le côté le plus pur, si je peux dire. Vraiment, on va dire qu'à l'origine même, pour moi, c'est comme ça que doivent fonctionner ces énergies-là. Et que dans l'univers et dans la nature, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Maintenant, chez l'être humain, on est encore loin, en gros, d'avoir réussi à avoir une humanité qui, justement, arrive à incarner cela.
Et du coup, ça me donne envie de vous poser une question à tous les deux. Est-ce que c'est difficile d'incarner ça au quotidien en tant qu'homme? Toi, tu rigoles, là.
Ouais, je rigole. Je rigole parce que j'ai envie de vous dire, je suis en plein dedans, en fait. Ouais, c'est pas évident, puisque de toute façon, en fait, c'est pas évident quand on le pratique pas assez. Voilà, c'est comme toute chose au final, on veut apprendre à jouer de la guitare, il faut pratiquer pour être expert en la matière, on veut faire du yoga, au début ça va faire mal parce qu'on n'est pas habitué, mais il faut justement pratiquer pour avoir un niveau bon et un très bon niveau. Le masculin sacré, c'est pareil, parce que c'est comme la méditation au final, la méditation au début on va dire « oh je sens rien, ça me fait rien », enfin voilà, alors que...
J'ai trop de pensées.
Voilà, j'ai trop de pensées, en fait le truc c'est que si on ne pratique pas assez... On ne va pas être... En fait, ce sera moins évident. Ce sera moins évident. Le masculin sacré, c'est exactement la même chose. On a beau dire, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, j'ai envie d'être masculin sacré, j'ai envie d'incarner les archétypes. Mais si au bout de quelques semaines, on lâche un peu l'affaire, on dit pas que c'est dur, mais s'il n'y a pas l'engagement, envers la masculinité sacrée, c'est compliqué en fait, on peut pas dire que c'est évident. C'est pas facile aujourd'hui, dans l'époque d'aujourd'hui, d'incarner le masculin sacré.
Mais est-ce que ça l'a jamais été au final?
Gaël va nous répondre à la question après, mais pour répondre à cette question-là, est-ce que ça l'a jamais été? Je pense que si au début, au début en fait franchement, je dirais allez, 12 000 ans avant Jésus-Christ. 12 000 ans avant Jésus-Christ.
Je sais pas si ça existe. Hein,
mais en fait, c'est pour dire, parce qu'avant, on était juste source d'amour. source d'amour, source de lumière. On n'était pas autre chose, on n'avait pas cette société-là, on n'avait pas toutes ces pensées-là qu'on a aujourd'hui. Le téléphone, la télé, les publicités, enfin, le travail, la pression du travail. On n'avait pas toutes ces pensées-là avant. Ce qui fait qu'on était plus facilement centré sur soi, donc à la vie, sur la vie intérieure. Donc on pouvait pas plus facilement, mais on était plus enclin à tenir cette énergie-là, en fait, tous les jours, quoi. Finalement. Après, Gaël, toi, est-ce que c'est dur pour toi d'incarner le masculin sacré aujourd'hui? Tous les jours?
En fait, pour moi, la question, elle est venue surtout au moment où, quand je suis devenu père, déjà. Parce que c'est vraiment là où on se pose la question, on se dit, ok, c'est quoi être un père, en fait? Et en gros, quand on se demande la question, qu'est-ce que c'est être un père, c'est aussi être un homme. Et c'est, on revoit en quelque sorte sa position d'homme dans la société. Et moi, ce que je m'étais rendu compte, c'est que, en gros, mon père, bon, il a été un modèle pour moi, il avait ses qualités, il avait ses défauts, mais il y avait des choses où je me disais, ouais, je me reconnais pas dans sa manière d'être, dans sa manière d'éduquer, et juste dans sa manière d'être un homme, en fait. Et j'ai beaucoup cherché autour de moi en me disant, mais ok, quel modèle j'ai, en fait? Quel est le modèle, quel est l'homme qui représente exactement, moi, ce que j'aimerais incarner? Et que j'en ai pas, en fait. J'ai pas pu trouver un modèle qui pour moi m'inspirait en me disant je veux être comme cet homme là. Je n'ai pu avoir que des mix.
C'est un réel problème au final, ça, pour un homme aujourd'hui ou même un homme avant, c'est cette notion de modèle là.
Pour rebondir sur ce que Gaël vient de dire, je pense qu'en fait le fait qu'il n'y a pas forcément de modèle ou se demander quel homme je pourrais m'inspirer pour être l'homme que j'ai envie d'être. Je pense que le seul homme qui peut nous inspirer, c'est nous au final. C'est ce qu'on a envie d'être plus tard. C'est notre le dessin, le rêve qu'on a de nous-mêmes en fait, de notre personnalité, de notre vie, de notre caractère, de notre personnalité. Se dire dans 10 ans j'aimerais être tel homme, c'est ça qui peut nous inspirer au final. Après c'est pas une fin en soi, parce que c'est pas évident, mais voilà, c'est s'inspirer, je pense, du rêve qu'on a de nous-mêmes, en fait, de quelle personne on a envie d'être demain, pour soi, pour notre conjointe, pour nos enfants, pour mon entourage, et pour les gens autour que je peux toucher au final. Voilà, je pense que c'est ça qui nous mène aussi sur cette voie-là. Parce que ce que disait Gaël par rapport au père, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que quand on n'a pas forcément de modèle et qu'on est seul au final à se dire, mais c'est quoi la place d'un homme, c'est quoi être un homme, moi je suis sûr que l'homme, c'est pas ce qu'ils disent eux, mes camarades ou mes copains, c'est pas ça être un homme. Pour moi, être un homme, ça vient plus loin, c'est plus profond, ça vient du cœur. C'est là-dedans qu'on trouve les réponses.
Mais au final, est-ce que ce serait pas ça la dimension sacrée masculine? Ce serait, comme pour les femmes de toute façon, c'est, on a un modèle de surface qui est représenté par la société patriarcale avec des comportements à connotation patriarcale qui te dit l'homme... C'est quoi, j'entends mes élèves des fois dire l'homme pue l'homme, quoi, enfin des trucs comme ça, où on se dit mais en fait ça veut dire quoi, ou qui s'appellent frères entre eux et que moi je me retrouve à leur dire mais arrête de vous appeler frère, vous êtes même pas frère, vous passez votre vie à vous charrier, à vous critiquer, ces choses comme ça. Donc en fait, c'est je pense que c'est vrai de se dire que en tant qu'homme ou même en tant que femme, on n'a pas forcément de modèle inspirant, sauf que je trouve que beaucoup d'hommes utilise cette excuse pour se victimiser derrière des comportements violents, des comportements oppressants, des comportements patriarcaux qui oppressent au final les autres êtres vivants. Je vais même pas parler de son rapport avec la femme, mais cette espèce d'envie de domination sur le monde, de contrôle sur les choses. Bon, ça, aujourd'hui, moi, je sais d'où ça vient, mais je me dis, c'est pas forcément le but de ce podcast aujourd'hui, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle de vous, comment est-ce que vous êtes... Toi, par exemple, Gaëlle, comment est-ce que tu t'es sortie de cette image que tu avais du père? Et je veux dire, imagine pour les hommes qui ne sont pas pères, ça veut dire qu'eux, ils ne peuvent pas atteindre cette dimension du sacré? Et y aurait-il d'autres moyens pour eux d'atteindre cette dimension-là? Et toi, comment au final tu t'es détaché de l'image que tu avais d'un père ou d'un homme idéal, et comment tu es devenu ton propre modèle au final? Est-ce que tu as eu des moments clés? Est-ce que tu as eu des choses qui te sont arrivées et qui ont fait que tu as pu apprendre à être complètement toi-même.
Ouais, bah, du coup, dans ce que tu dis, en fait, bah, pour moi, j'ai expliqué voilà, que c'était en étant... Quand moi, je suis devenu père, que la question a vraiment été la plus grosse. Mais il y a des moments où, quand par exemple, je commençais à avoir mes premières relations avec des filles, pareil, on se pose la question aussi, ok, c'est quoi un homme, en fait? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner, moi, en tant qu'homme, à cette femme? Qu'est-ce que je vais lui apporter, en quelque sorte? Et donc, forcément aussi, on se pose la question, c'est quoi être un homme? Qu'est-ce qu'un homme fait avec une femme? Donc, cette question-là, elle peut revenir pas simplement quand on devient père, mais on peut se la poser à plusieurs moments de sa vie. Et du coup, bah, comme je rejoins Thomas, en fait, hein, c'est clair que la réponse, elle est là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut se trouver soi-même et qu'au bout d'un moment, il faut se dire, ok, il n'y a pas de modèle et c'est pas pour ça que je ne fais rien. En fait, c'est juste que moi, je me dis, ok, bah, si un modèle pouvait exister ou que je pouvais moi alors créer et être le futur modèle que j'aimerais avoir, être pour les autres, ça serait qui en quelque sorte? Et on se base là-dessus. Certes que dans la théorie, c'est cela. Après, dans la pratique, et c'est là où justement on a besoin justement d'avoir des modèles incarnés. Parce que entre le rêve et la réalité, il y a un énorme fossé. Entre ce que moi j'imagine qui serait ok l'incarnation idéale du masculin sacré sur la Terre. Mais c'est juste il y a un fossé mais immense, entre ça. Parce que c'est juste tellement complexe. Notre société avec tout ce qu'elle a comme valeur aujourd'hui, tout simplement... Comme tu l'expliques, ce patriarcat aujourd'hui qui est dominant a quand même, aujourd'hui, moi je me reconnais pas dedans, tout simplement. C'est que je me vois pas comme cet homme justement qui a plein de blessures et qui n'ose même pas en parler, qui au contraire, parce qu'il est blessé, ne fait que faire semblant d'être beaucoup plus fort et se dire non, c'est pas vrai, j'ai pas de blessures et j'ai rien à changer, je suis parfait, c'est moi qui domine et fermez votre bouche et écoutez-moi et laissez-moi faire les choses. Non! Moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Je me reconnais dans, au contraire, un homme qui s'accepte avec ses blessures, avec ses forces et qui ose montrer au monde entier en se disant « Voilà qui je suis, voilà mes faiblesses, voilà mes forces. » Et c'est tout, point. Et je sais que j'ai des choses à améliorer et je vais travailler là-dessus. Sauf que si on regarde bien la majorité des rôles qu'on a pu voir et des hommes... Bon, je vois beaucoup de changements aujourd'hui, mais je prends, il y a 2-3 générations... Par exemple, j'entends les hommes parler de leur grand-père. J'ai pas connu mes grands-pères, en fait. Mais quand j'ai discuté avec d'autres hommes qui me parlaient de leur grand-père, ils me disaient tous, mais mon grand-père, c'était un mec qui était... voilà, il disait, et il fallait faire, et point. Et il parlait jamais de ses émotions. Et il avait une grosse voix, et il était dur, en fait. Et c'était vraiment l'homme voilà, qui était là pour fournir, en gros, nourrir sa famille, et c'est tout, quoi. Et il était pas là pour discuter, il était pas là pour faire autre chose que ça, quoi. Et clairement, moi, je me reconnais pas du tout dans une telle identité. Cette force qu'ils ont, cette force protectrice qu'ils avaient de pouvoir se dire « Ok, je protège ma famille », ça m'inspire. Mais tout le reste, non. Parce que derrière, ils ont tellement blessé aussi les autres, en fait. Cette dureté qu'il y avait, en fait, pour moi, je m'y reconnais pas. Il faut justement un équilibre entre la dureté et la douceur. Et un homme est tout à fait capable de cela, quoi.
En fait, je me dis, c'est pas tant de faire, mais c'est ce que tu vas être à travers les valeurs que tu prodigues. Parce qu'au final, là, tu me dis, tu me parles de valeurs protectrices. Et moi, quand j'entends les hommes parler de leur grand-père qui était dur et tout, c'est vrai que derrière se cachait peut-être cette envie de protéger sa famille ou d'être présent pour sa famille, d'être un peu cette notion de responsabilité. J'ai la responsabilité de ma famille, qui sont des valeurs au final super importantes et hyper louables, mais en fait peut-être que dans sa façon d'être et de faire, plutôt dans sa façon de faire à travers ces valeurs là c'était pas la bonne façon de faire au final. Je pense que ça me fait rebondir un peu là-dessus.
Enfin, ce que moi j'ai pu me rendre compte, en fait, et comme tout à l'heure tu parlais, enfin, il y a ce côté où moi j'aimerais mettre un bémol, c'est que je suis pas là pour blâmer ces personnes-là, en fait, parce que justement c'est qu'elles n'ont jamais su comment faire. Il y a jamais eu de modèle, en fait, on leur a jamais appris, il n'y a jamais eu quelqu'un pour leur dire, mais tu sais que tu pourrais exprimer tes émotions et que en ayant justement un équilibre entre toi-même déjà, ou dans ta manière d'être, comme tu l'as expliqué, sur tes valeurs, d'incarner tes valeurs et de mieux les comprendre, et ensuite ça te permettrait justement de toujours exprimer cette volonté d'être protecteur, mais sous une autre forme qui pourrait être plus douce et où tout le monde trouverait son épanouissement. Clairement.
Mais pourquoi comment c'est si difficile, ça, en fait, au final, pour un homme aujourd'hui de parler de soi et de ce qu'il ressent, d'après vous?
L'image.
Ah.
L'image. Enfin, je sais pas, Gaël, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, clairement. C'est vraiment l'image, en
c'est
fait.
C'est quoi, de ne pas perdre la
justement,
face
étant...
en fait, là, on dit image, mais c'est plus profond que ça. C'est bien sûr lié au mental. Parce que au final, on va se dire, oui, mais en fait, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Tu vois, par exemple, je prends un exemple. Tu viens de te... Tu, je sais pas, moi, tu viens de... Tu es dans une relation, on va prendre cet exemple-là, tu es dans une relation et la fille, ben, ça ne pouvait plus passer entre elle et toi, et du coup, elle prend la décision ben, d'arrêter, de te quitter. Ben, toi, le mec, ce qui va se passer dans ta tête, c'est ok, tu vas te dire, ok, bon, ben, on ne va plus être ensemble. Il y a ça, soit il va vouloir dominer la relation et prendre une position de force et dire non, je veux pas que tu me quittes, enfin, c'est moi, enfin, bref. Et se dire aussi, ben, ok, elle me quitte, mais au final, moi derrière, je vais dire à tous mes potes, à tous mes proches que ben, c'est moi qui l'ai quitté parce que c'est elle qui m'a mis des coups bas. Enfin voilà, on va se redorer un peu l'image dans cette relation-là en se disant, ben, c'est moi qui ai pris le devant parce que c'est moi l'homme et c'est moi qui en avais juste marre d'elle, quoi. Mmh. Alors que forcément, on a bien vu dans cet exemple que c'est pas vrai, c'est la fille qui le quitte. Mais le mec, ce qui va se passer, c'est que il a tellement cette mentalité qui est fondée, hein, puisqu'elle est fondée sur, bah, sur la société actuelle. Elle est fondée, cette mentalité, parce qu'elle est vraie dans la société actuelle. Il va vouloir se redorer l'image du mec fort, du mec qui a du pouvoir et qui domine. Alors qu'au final, c'est pas juste. En fait, c'est pas juste. C'est pas juste pour lui, en fait. Parce que il va de plus en plus s'enfoncer dans ces schémas-là. Et tu parlais tout à l'heure des schémas. Justement, il va s'enfoncer de plus en plus là-dedans. Et c'est ça qui est plus compliqué après de revenir, en fait. Donc voilà. Après, je sais pas. C'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, surtout. Parce que le truc, c'est que...
En fait, c'est quoi? C'est, en fait, quand tu dis l'image, pour moi, je me dis, c'est le regard de l'autre.
C'est ça. Oui, c'est le... oui, ben,
c'est
oui,
ça.
Bien sûr.
C'est genre, j'ai peur de comment... Est-ce qu'on va me juger en me disant, ouais, en fait, je montre trop mes émotions. Du coup, en tant qu'homme, comme c'est pas accepté dans la société, comme on vous apprend pas, on vous dit quand vous êtes petit, arrête de pleurer comme une fille. Donc après, vous allez vous dire,
oui,
oh, ça y est, on est comme des filles, on est faible, parce que du coup, on vous fait croire que les filles, c'est faible.
Voilà, déjà ça.
Que les filles, c'est émotionnel. Donc si vous êtes trop émotionnel, du coup, vous êtes une fille, du coup, vous n'êtes pas un homme. Du coup, là, ça remet en cause, du coup, la présence, la sexualité,
un autre exemple,
force, tout ça.
Un autre exemple, ben, oui, déjà, oui, mais... Pour revenir à ce que tu disais, c'est dur de pleurer ou de montrer ses émotions parce qu'on est un mec et tout. J'ai grandi avec 3 sœurs. Il est arrivé parfois que quand je me mettais à pleurer ou que j'étais au bord des larmes, ben on rigolait en face. Même dans ma famille, c'était pas forcément accepté directement, puisque ben je suis un garçon, je dois pas pleurer.
Et en fait, voilà, c'est le plus sensible de ta famille.
Non, mais au final, ce sont des passages qui sont durs dans la vie d'un homme, puisque on le fait prendre une route qui n'est pas la sienne, quoi.
C'est un peu comme des rites de passage à l'envers, en fait. En fait, au lieu de faire des rites de passage qui te permettent de devenir l'homme protecteur, nourricier et fort et qui remplit du coup sa mission de masculin sacré, on te fait des rites de passage pour te dire non, il faut que tu t'enfermes, il faut que tu te fermes, il faut que tu deviennes dur, il faut que tu incarnes la domination, le patriarcat, toutes ces choses-là. Enfin, du coup, moi, c'est un peu ce qui me vient.
Après, j'aimerais que Gaël rebondisse aussi là-dessus, sur le fait que, après, c'est pas l'excuse. Bien sûr, c'est pas une excuse de dire c'est à cause de l'image qu'on ne tend pas vers le masculin sacré. C'est vrai, mais pas vrai en totalité. Je pense aussi que... Après, c'est une question aussi de... c'est cas par cas aussi, quoi. C'est tout à chacun de prendre cette décision-là, de se dire, soit je m'informe, soit je m'informe pas. Soit je m'engage, soit je m'engage pas. Parce que voilà, ceux qui entendent parler du masculin sacré, après voilà, ça va en toucher quelques-uns et ça va en laisser d'autres. Enfin, la plupart après vont juste entendre le terme et pas plus s'y intéresser. Mmh. Donc après, c'est aussi à chacun de se dire, il y a aussi une autre voie en fait pour l'homme. Il n'y a pas que ce que je connais en fait depuis le début. Enfin voilà, c'est aussi une question de choix aussi et d'information après à côté. C'est pas que parce que j'ai mon image à protéger, c'est après qu'est-ce que j'ai envie d'assumer aussi, quoi.
Et toi, Gaël, alors ?
Bah, en fait, quand on parle de l'image, pour moi, c'est plus loin que... Parce que derrière, c'est quoi la conséquence d'avoir une mauvaise image ? C'est la peur d'être rejeté et d'être abandonné, tout simplement. De plus faire partie, en fait, d'un groupe. Se retrouver seul, si on regarde bien, c'est l'une des plus grandes peurs qu'un être humain. Si plus personne ne veut nous parler, c'est-à-dire qu'on te dit « Ok, toi, t'es trop différent et je veux plus de toi. »
Oui, c'est ça.
C'est une des plus grandes peurs, en fait, qu'un homme peut avoir, de se dire qu'il se retrouve tout seul, qu'il est rejeté par ses pairs. Donc il est rejeté par les autres hommes, parce que tous les hommes lui disent « Toi, t'es faible, tu peux pas faire partie de la tribu. » Et que les femmes lui disent « Bah justement, toi, t'es un mauvais... Tu me plais pas non plus, et donc je te rejette et je vais aller chercher un autre homme plutôt. » Ça, pour un homme, c'est une des pires peurs. Enfin, pour ma part, je sais que moi, j'ai été drivé par cette peur pendant très longtemps. C'est que le fait d'être rejeté, de ne pas être inclus dans un groupe... a été une des choses qui m'a empêché justement aussi d'être moi-même à des moments où je me reconnaissais pas. Mais je suis parti faire le macho, par exemple, parce que tout le groupe le faisait. Et que je me dis...
Est-ce qu'il y avait quelque chose qui disait « c'est pas bien »
Mais clairement. Clairement, je le sentais à l'intérieur de moi que j'étais pas du tout en phase, j'étais pas aligné. Sauf qu'à cette époque-là, dans l'adolescence, ouais, c'est clairement, on en arrive à des moments où, par exemple... Je donne un exemple tout simple où on allait à la piscine et pendant dans les vestiaires, en fait, ce qui se passait, c'est que tous les mecs, à un moment, ils sont arrivés, ils ont dit « Ok, on était deux classes. » Donc, il y avait nous, la 6e B, la 6e H. Donc, en gros, dans ce temps-là, les 6e H, c'était tous les, on va dire, les délinquants, en quelque sorte, si on peut dire ça, qui étaient regroupés dans ces classes. Et qu'eux, ils arrivent, ils nous disent « Bah, c'est bon, on va faire un test, on va regarder qui est le plus fort. Les gars, on prend deux gars et ils se battent tout de suite. » Et voilà le but du truc et... c'est pour savoir qui est le plus fort. Ah ouais. Quel est le but de faire ça ? C'est pourquoi on fait ça ? Et ça a été tous les cours qu'on a dû faire ça, en fait. Et moi, je n'étais pas du tout aligné. Sauf que, bah, soit tu te dis, ok, tu y vas au combat et parce qu'il faut le faire, parce que sinon, en gros, tout le monde va te moquer de toi. Et en gros, c'est même pire, parce que là, ça va se remettre dans la cour d'école. Ou, voilà, il faut assumer, quoi. Et tu dis, ok, bah, tu y vas. Et ça, c'était le genre de choses où moi, mais il y avait tout mon être qui était en train de me dire, mais c'est quoi ces animaux, quoi ? On n'est pas des animaux, on n'est pas là. Quel est le but de faire ça, en fait ? Je comprenais pas. Et pourtant, bah, j'ai dû le faire.
Oui, à la limite, tu te dis que...
Parce que c'était sinon... Bah,
ouais. À la limite, tu te dis que t'étais gladiateur dans une arène.
Ouais, ben bah, voilà, bah, en gros, derrière, ouais. Mais c'était presque ça, parce que de me dire que derrière, je sais très bien que si je le faisais pas aussi, bah, c'était, on aurait raconté ça à tout le monde dans la cour de l'école, et derrière, bah, c'est rejeté de tout le monde, quoi, en fait. Sauf que derrière, à nouveau, peut-être que non. Ça, c'était ma croyance. Parce que peut-être que si j'avais osé dire, je fais non, les gars, moi, je fais pas ça et je veux pas. Toutes les autres personnes qui, elles, pensaient comme moi aussi, mais n'osaient pas le dire par peur, peut-être qu'elles se disent, bah, enfin, quelqu'un qui pense comme moi aussi. Et ce qui va justement mener, et c'est ce que aujourd'hui le mouvement est en train de se mettre en place, si on regarde bien pourquoi on parle du masculin sacré, qui est un sujet que peut-être on n'aurait jamais abordé il y a peut-être 20, 30 ans de ça. Parce que justement, de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent en disant « Mais c'est plus possible, c'est pas ça être un homme. » Et que maintenant, tous les hommes qui, eux, ne sont pas d'accord avec cette vision de l'homme qu'on a aujourd'hui, de ce patriarcat, osez vous exprimer et montrer c'est quoi véritablement un homme pour vous. Donc ça recommence à former des nouveaux groupes. Donc les personnes qui ont peur d'être exclues en fait, d'un groupe vont se rendre compte que bah, tu t'exclus de ce groupe-là. Mais tu vas aller vers un autre groupe qui est plus en phase avec toi. Et si personne n'ose l'exprimer, si personne n'ose dire « moi, je ne me retrouve pas là-bas et je suis comme ça », ça va permettre à chacun de se dire « mais oui, moi, je me reconnais dans ce que tu es en train de dire, en fait. Bah, allons former notre groupe. » Et c'est là où il faut surmonter cette peur de cette manière-là, en ayant confiance, en ayant la forte croyance de savoir qu'on n'est pas seul, en fait, à avoir cette vision-là. Il y a énormément d'hommes qui vivent les mêmes traumatismes qu'on a pu avoir dans l'enfance, les mêmes choses. Je regarde le nombre de personnes que j'ai accompagnées aussi en coaching, les fils enfin de parents, en fait, où leur, voilà, les familles sont séparées, ils ont connu leur père à l'âge de 3 ans, ils n'ont plus connu leur père, et ils se disent « mais j'ai jamais connu mon père, j'ai pas de repère, je sais pas c'est quoi être un père ». Combien d'hommes vivent comme ça ? Et aujourd'hui, ils sont juste perdus et ils ont juste besoin de se dire « Ok, ce qu'ils ont entendu, pareil, c'était ce côté patriarcat de « il faut être fort, il faut absolument donner cette image-là » et qu'eux ne se reconnaissaient pas dedans. Et eux, pareil, j'en ai coaché tellement des personnes comme ça qui, derrière, en ayant pu discuter, qui me disaient « Mais Gaël, Ça me fait juste plaisir d'entendre quelqu'un qui pense comme moi, qui a la même vision, qui a les mêmes valeurs. De se dire, mais j'ai l'impression que moi, autour de moi, il n'y a personne comme ça.
Mais qui ose le dire.
Et juste le... Mais voilà, exactement, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est juste des hommes qui osent dire, moi, je suis comme ça, et je crois en ça. Mais il y en a plein. C'est même pas une supposition, c'est sûr et certain, il y en a plein.
Est-ce que tu penses aussi
que... Il y a des choses à dire.
Il y en a plein qui sont... qui ont envie de suivre cette voie, mais qui... Du coup, commettent quand même pas mal d'erreurs sur cette voie et qui, pour se protéger ou qui sont un peu méfiants et qui, du coup, ont du mal à être authentiques vraiment. Après, je pense que voilà, la notion d'authenticité, c'est quand même quelque chose qui peut prendre quelque temps avant d'être complètement soi-même. Du coup, je me dis, une des premières clés peut-être qu'on pourrait donner pour... commencer cette voie vers le masculin, ce serait quoi? Ce serait de prendre ses responsabilités déjà, regarder sur quoi on a besoin de travailler, sur quoi on a été blessé. Peut-être ce serait une première...
Alors, c'était quoi ta question?
Quel serait le premier pas, quel serait le premier outil à mettre en place pour qu'un homme puisse voyager sur cette voie? Quelle serait la première marche à franchir?
Je dirais que déjà prendre responsabilité, c'est une option, mais c'est la deuxième option. La première, c'est de faire le choix. Tu fais le choix, et ensuite tu prends la responsabilité d'avoir fait ce choix-là, en fait. Donc d'assumer derrière que tu vas mettre en œuvre tout ce dont tu as besoin.
Mais à vous entendre, quand même, c'est très difficile de le faire seul.
En fait, pour revenir un peu à ce que disait Gaël juste avant, parce que ce qu'il disait était super intéressant, dans son exemple, par rapport au combat dans les vestiaires, on part clairement sur un manque de confiance en soi, en tant que garçon, en tant que jeune garçon, en tant que futur homme. On part sur un manque de confiance en soi, on part sur un manque d'estime de soi, donc d'amour propre, connaissance de soi-même et de ce qu'est au final la vie en société, hein, surtout avec d'autres garçons. Et aussi, après, on part sur un problème de domination et de pouvoir et de démonstration de force. On part là-dessus, en fait. Donc, aujourd'hui, de le faire tout seul, c'est possible, hein, c'est faisable, hein, totalement. Mais en fait, tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens d'énumérer, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour propre, la connaissance, le pouvoir aussi, du coup, ces choses-là, si on les cumule à d'autres personnes, si d'autres personnes nous rejoignent dans cette énergie-là, en fait, de vouloir comprendre ce qu'on est, en fait, en tant qu'homme, c'est vrai que c'est plus facile. Plus facile. Il y a des cercles, il y a des tribus d'hommes qui se font un peu partout dans le monde. Et ça se faisait même déjà bien avant, de toute façon. C'est juste qu'au fil des années, avec le problème du pouvoir et de la force, on s'est éloigné, nous les hommes, entre nous, au final. Avant... aujourd'hui, c'est un peu compliqué de défendre son clan, puisque son clan, au final, n'est même pas un clan de confiance. Enfin, voilà. Donc, si déjà il y a un problème entre chaque individu, quand je dis un problème, c'est dans leur développement personnel à chacun. Si déjà il y a un quoi quelque part là-dedans, c'est dur d'avancer à plusieurs.
Mais c'est marrant, hein, que je vous écoute. Enfin, c'est marrant parce que, en fait, ça me fait vraiment réaliser que, tu sais, tout ce qu'on dit, comme on dit women's work, sont beaucoup liés avec la façon dont elles ont été traitées par leurs pères, leurs frères, leurs amis, leurs potes à l'école. J'ai des femmes qui ont littéralement peur de l'homme. Que quand elle marche dans la rue, elle voit un homme qui marche derrière elle, elle dit mais c'est bon, je vais me faire agresser, quoi. C'est fou comme fondamentalement. C'est peut-être pour ça, du coup, que j'ai plus de compassion pour le groupe oppressé que le groupe oppressant. Mais c'est vrai, je suis d'accord qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, sinon ce serait trop facile et même, je dirais, trop difficile au final. Après, mais c'est vrai que quand même, il y a une phobie, hein, de comportement... qui touche à ta sécurité.
Et tu vois, et c'est là où une dissonance, en fait, chez l'homme. Puisqu'au final, tu me parles d'oppresseur, d'oppressé et d'oppresseur. Donc, dans ton cas, tu me parlais de la femme. Même moi, en tant qu'homme, je suis un oppressé dans le cercle d'oppresseurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bah, au final, comme Gaël, j'avais, je m'identifiais pas à ce genre de rituel entre mecs, quoi. Mmh. À se dire, on va se foutre sur la gueule pour voir qui est plus fort et pour montrer que t'es un homme. Tu vois, je veux dire, pour montrer que t'as des balls, tu vois. Wow. Donc, excusez-moi, donc voilà. C'était ça, en fait, c'est pour parler cru aussi. Te montrer comment l'homme, au final, parle avec son frère, quoi. Parce que de base, on est tous des frères, tu vois, donc... Donc voilà, c'est ce terme-là qui ne correspondait pas forcément à l'identité qu'on avait, nous, d'un mec, quoi.
Et du coup, j'ai envie de vous demander, Gaël, du coup, t'as envie de rebondir sur un des... Il y a plein de choses qui se sont dites.
Ouais, pour répondre plus directement à ta question, en fait, ou justement, mon positionnement, où tu disais justement quelle est la première étape qu'on pourrait faire pour un homme pour aussi s'affirmer un peu plus. Pour moi, c'est pas d'aller chercher quels sont les traumatismes et d'aller travailler dessus, en fait, parce que c'est là où, justement, moi, j'ai fait le choix d'être coach et pas être thérapeute. Parce que pour moi, je me dis, on travaille sur ses forces, en fait. Se connaître soi, c'est déjà connaître quelle est ma valeur, qu'est-ce qui est fort chez moi, qu'est-ce qui est solide chez moi sur lequel je peux m'appuyer, en fait. Tandis qu'une faiblesse, elle est fragile et ça demande plus de travail, plus de temps, en fait, d'aller justement surmonter les traumatismes, d'aller travailler, d'améliorer tout ça. Ce qu'on peut faire immédiatement, c'est de se dire, OK, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui compte pour moi? Et qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui crée de l'énergie positive chez moi, en fait? Qu'est-ce qui me donne de la force? C'est quoi ça, en fait? Et d'aller identifier ça chez soi, et ensuite d'aller se dire, quand je l'ai identifié, j'ose l'exprimer aussi. Parce que déjà, je vois beaucoup de personnes qui font du développement personnel, mais qui gardent ça pour eux, en fait. Ils ont une très bonne connaissance d'eux-mêmes, mais ils ne le partagent pas. Mmh. C'est-à-dire que ça reste à l'intérieur. Il y a des gens qui ont une très grande sagesse, ou bien une très grande, justement, capacité d'amour et d'empathie, mais ils gardent ça pour eux. Et c'est ça que je comprends pas. Je me dis, mais pourquoi? Tu le sais que tu as ça en toi. Exprime-le, montre-le, en fait. Et c'est simplement de déjà commencer par faire ça que déjà on va se rendre compte que quand on le fait, on se sent déjà bien. Et les gens autour de nous aussi profitent de ça et se sentent bien, en fait. Mmh. Et donc, du coup, on va se rendre compte qu'il y a d'autres manières de faire que celles qu'on a pu voir, qui, au contraire, est menée par la peur. Alors que quand on est guidé par l'amour, c'est là où ça contribue à soi et aux autres, et il n'y a que du positif, en fait. Tandis que quand on fait les choses par peur, c'est là où on va créer, justement, soit peut-être on va se sentir plus fort, peut-être, parce qu'on dit « Oh, regarde, l'autre, il a peur de moi, donc je suis quelqu'un de fort. Mmh. » Sauf que derrière, tu es en train de créer de la peur chez cette personne-là, et tu es en train de la rabaisser. Donc, c'est pas une idée de gagnant-gagnant dans l'histoire, c'est au contraire, il y a un gagnant et un perdant. Et c'est pas ça le monde, c'est pas comme ça que fonctionne la nature, c'est pas comme ça que les lois spirituelles sont faites. C'est que tout le monde est égal, en fait. Donc il peut pas avoir un qui se sort bien dans une histoire et que l'autre finit mal. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu dis, justement, cette notion d'oppressant, oppresseur. Mais en fait, l'oppresseur, à chaque fois, n'est qu'une personne blessée qui ne sait pas comment, justement, guérir de sa blessure.
Bien sûr.
Et que la seule solution qu'elle trouve, c'est d'aller prendre, justement, son mal-être et d'aller le balancer aux autres. Au lieu juste d'aller voir la personne et de dire « Regarde, je vais pas bien. Est-ce que tu aurais une aide pour moi, s'il te plaît ?» Mm-hmm. Ben non, ça, pour un homme, c'est l'une des choses les plus difficiles à dire. Mm-hmm. « Je ne vais pas bien. Quand j'étais petit, j'ai été maltraité par mon père. Quand j'étais petit, j'ai été abandonné par ma mère. Quand j'étais petit, j'ai eu, justement, la première rupture amoureuse qui m'a fait super mal. Donc maintenant, la femme, je crois que c'est une espèce de salope, en quelque sorte, qu'il faut maltraiter ou des choses comme ça. » Et que donc pour ça, juste parce que j'ai été blessé par une femme, je suis parti dire que je vais faire du mal à toutes les femmes. Mmh. Est-ce que c'est une manière de faire les choses? Non. Et justement, à partir de là, on va dire que cet homme est un oppresseur, alors que c'est juste une personne qui a été oppressée une fois et qui s'est dit que je veux plus être l'oppressé, donc je vais me transformer en oppresseur.
Quand et même, c'est juste ça une personne blessée,
en fait. Mais ces personnes-là, c'est super épuisant pour elles, en plus. Mais parce qu'elles n'ont jamais vu aussi une personne qui était oppresseur finir par se dire « Mais c'est moi qui ai le problème, en fait. Mmh. » Est-ce qu'on a déjà vu un homme, est-ce qu'on a déjà eu l'occasion de voir un homme devant nous qui était le plus grand tyran faire devant toute la population et dire « Je reconnais que je suis le plus grand tyran du monde, je vais changer pour le mieux. Mmh. » Combien d'exemples comme ça on en a, en fait, d'hommes qui ont osé faire ça, avec suffisamment d'humilité pour se dire « Vous savez quoi? Je suis un incapable. » Je ne mérite pas la place que j'ai actuellement. Quelqu'un d'autre devrait la prendre parce que moi, je suis un oppresseur. On n'a jamais vu ça. Ou on l'a très peu vu, en fait. Des hommes qui incarnent cela. Donc c'est pour ça qu'il y a cette difficulté aujourd'hui à nous à faire ce travail. On préfère se dire, bah, on va faire la même chose et répercuter les mêmes schémas qu'on a pu voir. Et il faut qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui puisse dire, mais ce schéma-là, il n'est pas bon. Je l'ai fait dans le passé, mais j'accepte aujourd'hui de demander pardon à la femme, de demander pardon aux hommes, d'avoir été un oppresseur. Mais qui a le courage de faire cela?
Oui, c'est ça. Bah, c'est, voilà, j'ai te parler de la notion de courage au final. C'est vrai qu'on parle que l'homme est courageux, mais moi je trouve que la femme, elle est incroyablement brave et courageuse. Et c'est vrai qu'on n'enseigne pas forcément ça aux petites filles. On enseigne beaucoup ça aux garçons, mais c'est vrai que voilà. Alors je dirais que du coup, en faisant une synthèse de ce que vous avez échangé tous les deux, la première étape, ce serait du coup de faire un choix. Déjà, de faire un choix, de faire ce travail sur soi. Puis la deuxième, ce serait d'aller travailler sur ces traumas en se focalisant sur ce qu'on a de fort à l'intérieur de nous. Au lieu de... C'est un peu le concept que j'utilise souvent, c'est le concept de sublimer ses blessures. C'est en allant chercher comment j'ai surmonté tel ou tel trauma ou telle blessure qu'on découvre sa force de résilience, son courage, l'amour pour la vie. Et tout ça, c'est tout ça qui fait qu'on fait les étapes pour apprendre à guérir. Et est-ce que vous pensez qu'une dernière et ultime étape, au final, pour parvenir à incarner pleinement son masculin sacré, ce serait de sentir qu'on appartient à un clan dans lequel on peut être et évoluer par nous-mêmes, être soi-même, sans sentir de jugement, en toute neutralité, en toute bienveillance, et surtout bah, avec beaucoup d'amour, en fait, d'homme à homme, de cœur à cœur. Est-ce que ce serait vraiment genre le résultat ultime ou l'étape ultime pour un homme, quoi, de se sentir que j'appartiens à un groupe puissant et profond, et du coup ce serait ça l'expression du masculin sacré aujourd'hui?
Ben, clairement, moi je pense que c'est une des clés, parce que aujourd'hui l'un des gros problèmes que l'on a entre hommes, justement, comme tu parlais, d'oppresseur, oppressant. Mais en fait, si aujourd'hui je vois un homme, clairement, il faut se le dire, que moi j'ai cette espèce de truc instinctif qui est, dès que je suis dans une salle où il y a d'autres hommes, je me sens en compétition. Je me dis, ok, il va falloir que je montre mon bon côté, parce que sinon, je risque de me faire écraser. Et honnêtement, ça me fait mal, moi, de me dire, mais pourquoi je vois un homme comme une personne en qui je suis en compétition? Pourquoi je ne vois pas comme un frère avec qui je me dis, mais clairement, au contraire, il va m'inclure et je vais me sentir super bien? Ça vient encore de mes blessures sur lesquelles je suis en train de travailler. Et aujourd'hui, d'avoir un clan, justement, où on se dit, mais il y a une confiance à 100%, où il y a de l'amour, où justement, je suis avec des hommes et je me sens aussi bien que si je suis avec d'autres femmes et je ressens le même amour, je ressens justement cette complicité, cette union-là. Mais clairement, je vais changer. Clairement, je vais pouvoir m'exprimer complètement et être moi-même. J'aurai pas peur, je serai pas en train de mettre une armure ou en train d'essayer de me protéger de quoi que ce soit. Je pourrai être authentique dans tous les moments. Et déjà, c'est vrai que c'est difficile de le faire en société, parce que forcément, pas tout le monde aura mis en place cela. Et si on a un clan, justement, on a un groupe d'hommes avec qui il y a cette confiance qui a été créée, déjà, on va commencer à être authentique dans ce groupe, où on sait qu'on est en sécurité dans ce groupe, qu'à aucun moment, il y aura un homme qui va venir nous attaquer sur nos faiblesses, et au contraire, qui, quand il verra une faiblesse, sera là pour nous guider, pour nous aider à guérir des blessures que l'on a. Donc on sera authentique et ça va nous faciliter après pour le monde de tous les jours de garder cette authenticité. On a besoin en fait de cette sécurité, on a besoin justement d'un... C'est pour moi la même chose que dans un couple. Quand on se met dans un couple, on a besoin d'avoir justement cette sécurité, on a la chance avec une personne qui nous aime de se sentir suffisamment en confiance pour être authentique. C'est la même chose qu'on va voir si on a des parents aimants pour un enfant. Il va se sentir aimé, il va se sentir en sécurité, donc il va grandir en étant authentique. Cette notion de sécurité, de confiance est primordiale. Et tout ce qu'on a dit, justement, depuis le départ avec Thomas, qu'on a partagé certaines expériences du passé, c'est parce qu'on ne se sentait pas en sécurité. Si moi, j'ai pas osé dire aux autres enfants, de se dire, mais les gars, vous voyez pas qu'on est en train de faire n'importe quoi, essayer de se battre comme des gladiateurs, c'est parce que je me sentais pas en sécurité de le faire. Je me disais que si je le fais, j'allais me faire taper par 10
ouais,
mecs.
C'est ça,
c'est pas
peur.
Un seul mec pour qui j'allais combattre, c'est 10.
Ouais, ouais.
Donc je le disais pas. Mais si on a justement ce groupe où on se sent en sécurité, ça sera beaucoup plus simple de se sentir authentique et d'être authentique.
Ouais. Finalement, on revient un peu au but de ce podcast, Le droit d'être. La notion de sécurité, de liberté, d'égalité et de tranquillité à l'intérieur de soi et de l'environnement dans lequel on évolue. Et du coup, pour finir, si vous aviez un message à dire aux hommes et aux femmes qui nous écoutent, c'est vrai que on a moins l'occasion d'entendre parler du masculin sacré, en tout cas dans la francophonie, parce que dans les autres pays où ça parle anglais, c'est vrai que c'est quand même très très répandu, tout ce qui est les clans, les tribus, les sacred sons, les choses comme ça. Mais quel message vous auriez tous les deux à transmettre aux hommes qui souhaiteraient du coup aller vers cette voie du masculin sacré ? Quel serait votre message ?
Vas-y, Thomas.
Attends, j'assimile. Hein. J'irais en fait qu'il suffit d'actionner, puisque l'essence même de notre énergie, c'est l'action. L'énergie masculine, c'est l'action. Si on veut emprunter ce chemin-là et y rester, la seule façon d'y être, c'est de s'y mettre. Et puis je dirais en fait que c'est l'une des plus belles choses qui peut nous arriver, nous, en tant qu'hommes. C'est de retrouver notre essence, de retrouver ce pourquoi en fait on est aujourd'hui vivant en fait, et pourquoi on est sur Terre, pourquoi on est dans cet univers entouré de toutes ces belles choses, et aussi en fait se connecter, se remettre en phase avec cette énergie, c'est être soi au final, et au final être authentique, puisque on saura qui on est, tout simplement. Demain, je sais qui je suis. Demain, je connais mes valeurs, je connais mes qualités, je connais mes défauts. Je sais qui je suis pleinement. Ben, je serai moi pleinement dans chaque situation que compose mon quotidien. Que ce soit face aux coups durs ou... Peu importe, en fait. Si on emprunte ce chemin du masculin sacré, ça va pas être facile, ça c'est sûr, ça va pas être facile. Ça l'est pas pour moi, en tout cas. Ça va pas être facile. Mais il suffit juste d'y aller, quoi. De s'y mettre et de se... En fait, de s'informer, de vouloir se connecter à cette énergie-là. C'est surtout ça qui est super important, quoi. C'est avoir envie vraiment de se connecter à cette énergie-là, quoi.
Et toi, Gaël, quel serait ton message ?
Ben, pour les hommes, ça serait déjà de ceux qui ont déjà fait ce travail que vient de dire Thomas, en fait, ben de se porter en fait en tant que modèle, en fait, et de dire en fait d'en parler autour d'eux, d'oser l'exprimer, en fait, de dire mais moi je suis comme ça, voilà mes valeurs, et d'en parler tout simplement, parce que d'autres personnes qui n'osent pas en fait exprimer ce que eux ils vont exprimer, le fait de l'entendre et de se dire mais je suis pas seul, il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, ça va libérer déjà aussi, justement ça va donner un espace à ces hommes pour se dire ok, je suis pas obligé de suivre cette voie, il existe une alternative qui me correspond mieux. Parce que des fois justement il y a besoin d'avoir quand même ce modèle pour prendre confiance et se dire j'ai le droit de le faire. Quand quelqu'un a déjà fait le travail, justement, il a ouvert justement un sillon, il a ouvert une porte. Donc du coup, cette porte, on sait qu'elle est ouverte et qu'on peut passer ce chemin-là, en fait. Et qu'on n'a pas besoin de faire un travail de conquérant pour aller à nouveau, justement, combattre toutes les croyances limitantes qu'il peut avoir de notre monde et tout ça. Et la deuxième chose, pour les femmes, moi, ce que j'aimerais demander, c'est de laisser un espace aux hommes, en fait. C'est-à-dire que oui, les hommes ont été des oppresseurs, et qu'ils ont besoin justement de guérison et d'amour. Ils n'ont pas besoin d'être oppressés en retour. Au contraire, ils ont besoin d'être encore plus aimés, parce qu'ils ont d'énormes blessures, et que si, justement, au moment où la femme reprend son pouvoir et reprend toute sa force, elle utilise cette force-là pour oppresser l'homme, on va revenir exactement au même problème. C'est-à-dire que
c'est pas le but.
On aura peut-être, dans 1000 ans, on va se dire, le matriarcat, c'est le bordel, les femmes, elles dominent l'homme et tout.
Ah ben, il manquerait plus
en
que
gros,
ça.
Mais ça serait totalement débile de se dire qu'ok, on est là pour collaborer en fait, mais il y a besoin d'amour. Et la place de la femme, justement, aujourd'hui, je pense qu'elle est là, c'est d'autoriser l'homme à prendre un espace où il va pouvoir se sentir en sécurité pour guérir. Donc il y a les groupes d'hommes, mais avec la femme aussi. Je pense que déjà ça commence dans le couple, d'arriver à ce que l'homme puisse se sentir la capacité de dire à une femme, je suis pas capable par exemple, je ne peux pas faire ce que tu me demandes, je n'y arrive pas. D'être vulnérable, de se dire c'est ok d'être vulnérable, et de dire mais tu sais quoi, pour moi dans ma tête, je sais pas, pour moi c'était le côté, on va dire, sexuel aussi. Il y a eu des moments avec dans les couples où il y a des choses que je me disais mais je suis pas capable de donner ça, de donner du plaisir à la femme, mais je me mettais une pression en fait. C'est que l'image que j'avais quand j'étais adolescent, c'était que l'homme, ouais, il arrive comme dans les films porno en quelque sorte. et que du coup je me dis mais je suis pas comme ça, donc en gros je pourrais jamais donner du plaisir à une femme. Donc je me mettais une espèce de pression qui faisait que en gros mes premières relations sexuelles ont été nulles. Faut dire ce qu'il en est, parce que j'avais cette espèce de pression. Quand j'ai réussi à être beaucoup plus authentique et être moi, et c'est là où j'ai donné de l'amour comme moi je l'entendais donner de l'amour à travers un acte sexuel, et pour moi c'est justement là où on en arrive à redonner tout le côté sacré en fait à cet acte. À nouveau, ça crée mais de la magie. On a des moments de fou avec sa partenaire où vraiment il y a une liaison, il y a une connexion, et en revenir à ça aussi. Mais il faut que la femme aussi puisse donner à l'homme, ok, tu ne seras pas une espèce de bête animale envers moi, et très bien, tu as le droit, fais-le comme tu le veux en fait. On s'en fout si c'est bien, on s'en fout si c'est mal, testons. Mais pour qu'un homme puisse s'autoriser à faire ça, il faut qu'il se sente en confiance, clairement. Et il y a besoin d'un amour énorme, et je pense que les femmes, vous avez cette force-là, et c'est pour là... Moi, j'ai tellement de respect pour la femme parce que l'amour que vous êtes capable de donner est tellement énorme que ça peut sauver mais tellement d'hommes, quoi. Et tellement d'hommes en ont besoin. Et il y a ce côté chez la femme de s'autoriser à le faire parce que c'est votre plus grande force, d'aimer.
C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à guérir aussi chez la femme dans sa relation à l'homme pour pouvoir arriver à laisser de la place là-dedans. Parce que même moi, tu vois, qui travaille avec les femmes, qui fait tellement de travail sur moi aujourd'hui, je sais que sur certains points, j'ai encore du mal. Et je suis très pour cette notion de non-mixité dans un premier temps. Je suis pour vraiment les cercles d'hommes, les cercles de femmes et les cercles mixtes, mais pas des hommes dans des cercles de femmes ou des femmes dans des cercles d'hommes. Je pense que de ce côté-là, je suis pas encore, je vois pas l'intérêt en fait. Voilà, c'est la notion de non-mixité, elle est super importante. Et je pense que voilà, les hommes, vous avez vraiment besoin de vous connecter entre vous autant que nous on en a eu besoin et autant que nous on continue à en avoir besoin et à le faire. Et du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Donc déjà, je voudrais vous dire merci parce que c'est le premier enregistrement. Et c'était vraiment un peu fastidieux la mise en place et tout, donc c'est vraiment chouette. Je suis super contente d'avoir actionné du coup ce côté-là et d'avoir mis mon côté Yang en action et en planification et en organisation, donc je remercie mon énergie masculine pour ça, voilà. Et je remercie mon énergie féminine pour la création de ce podcast, parce que ça c'était vraiment super important. Et et j'ai envie d'utiliser ta phrase pour finir sur le thème du masculin sacré. C'est parce coaching. Que tu dis le masculin sacré pour que l'homme puisse s'éveiller à lui aussi à son être divin et à sa voix sacrée. Et je trouve qu'on peut finir là-dessus. Gaëlle, est-ce que tu veux nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver, sur quelle plateforme? Je sais que tu as un podcast aussi qui s'appelle Harmoniser sa vie, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et pour c'est ton ça. Travail, on peut te retrouver où?
Bah, je suis dispo sur Facebook, Instagram, Harmonisateur de vie, et sur YouTube aussi. Donc Gaël Salesi, Harmonisateur de vie, et vous pourrez me trouver voilà, sur ces trois plateformes de réseaux sociaux principaux.
D'accord, ok, où tu fais des chouettes vidéos inspirantes, c'est ça?
Ouais, j'essaye, on va dire que voilà. C'est plus le podcast en ce moment qui est développé, et d'accord, d'ailleurs il y aura des nouveautés aussi qui vont...
Ok, bon, bientôt arrivé, vous l'avez compris, restez connectés et allez vous abonner à la page de Gaël sur Harmonisateur de vie ou le podcast Harmoniser sa vie. Et j'ai envie de vous dire, suivez Thomas, parce que bientôt Thomas va nous créer un superbe cercle d'hommes, une tribu, un clan.
Ouais, on ne peut pas me suivre sur Instagram et ni Facebook parce que je n'y suis plus pour l'instant. Je me centre sur moi-même, c'est ce qu'il y a de plus important. Et bientôt une association, enfin un clan, un cercle d'hommes, dans le but de se retrouver nous entre hommes et faire les choses pour nous.
Et dans la nature, c'est ça?
Dans la nature, ouais. Reconnexion à soi, reconnexion à la nature, reconnexion à notre essence.
Ok, bah merci beaucoup à tous les deux, c'était vraiment chouette.
Merci à toi.
C'était un très très bel échange.
Ben ouais.
Vous pouvez retrouver le podcast Le Droit d'être sur toutes les plateformes de podcast et je vous donne rendez-vous pour l'épisode le mois prochain. À plus.
Ciao.